C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Cette fois-ci, sans mon compagnon de route Simon, qui reviendra vite, c'est promis. Nous sommes le mardi 28 novembre et nous nous intéressons aujourd'hui à nos villes et au réchauffement de leur température induit par le réchauffement climatique. Nous recevons ce midi pour en parler Mathieu David. Il est en préparation de thèse au sein du laboratoire ID de l'Université de Caen et il travaille notamment sur les îlots de chaleur et la notion de refuge climatique. Il nous aidera à y voir plus clair, à comprendre plus exactement les enjeux de ce problème qui nous concerne déjà grandement, parfois même sans que l'on ne s'en rende compte, alors que Caen pourrait connaître des étés similaires à ceux du sud de la France d'ici 2050. Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence avec ce monstre des mers qui fonce tout droit vers l'océan Austral. Pas de baleine ou de cachalot en vue, mais un gigantesque iceberg, le plus grand du monde, près de 4000 km², soit 3 fois la taille de New York, son poids 1 milliard de tonnes. Alors il ne s'est pas détaché hier, sa rupture avec l'Antarctique s'est faite il y a maintenant presque 40 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il commence à se déplacer pour la première fois depuis 1986. Il s'était jusque-là bloqué par sa partie immergée qui touchait le fond de la mer de Weddell, dans le sud de l'Atlantique. Seulement avec les vents et les courants forts, il commence à remonter du sud vers le nord, comme l'indiquent les images satellites de vendredi dernier. Alors il ne va pas remonter tout l'océan non plus, mais quand même, en 2020, un autre iceberg géant avait menacé d'entrer en collision avec l'île de la Géorgie du Sud. Un même scénario serait envisageable pour cet iceberg. C'est une nation que l'on attend moins dans l'espace que la Chine, les États-Unis ou même l'Inde. La Corée du Nord a annoncé mercredi dernier avoir réussi à placer en orbite un satellite espion qui pourrait prendre des photos de plusieurs bases américaines situées sur l'île de Guam dans le Pacifique. Une information à prendre avec des pincettes bien sûr, puisqu'elle provient de l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Elle assure toutefois qu'une fusée lancée mardi dernier a permis cette mise en orbite. La Corée du Nord qui prévoit de lancer d'autres satellites dans un court laps de temps afin de renforcer ses capacités de surveillance de la Corée du Sud et donc ses capacités d'autodéfense. En septembre, Vladimir Poutine avait laissé entendre lors d'une rencontre avec Kim Jong-un que la Russie pourrait aider Pyongyang à développer son programme spatial. C'est une petite révolution dans le milieu thérapeutique. Un médicament permettant d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de deux maladies génétiques a été approuvé par les autorités sanitaires britanniques. Cela concerne la drépanocytose, une maladie génétique très répandue qui se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Également concernée, la bêta-thalassémie, qui est due à une anomalie d'hémoglobine, qui est la protéine qui contient les globules rouges. Ce médicament permettra notamment d'éviter des transfusions répétées, les traitements lourds et des greffes de moelle osseuse. Une approbation qui peut paraître anecdotique, mais qui marque en fait un tournant dans l'histoire du médicament et qui ouvre la voie à une nouvelle ère thérapeutique par son caractère innovant et sa technique inédite, issue de travaux récompensés par le prix Nobel de 2020. Un atlas qui recense tous les sites archéologiques français vient de sortir, c'est une première. L'atlas archéologique de la France, édité par les éditions Taillandier, est disponible dans les librairies depuis jeudi dernier. C'est le fruit d'un long travail mené par l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique et Préventive. 20 années qui ont permis de recenser au total 50 000 sites, qui ne sont pas forcément les plus visibles. L'idée avec cet ouvrage, qui s'adresse au grand public, c'est de faire un état des lieux de notre patrimoine archéologique, aussi large soit-il. Large dans sa diversité puisqu'il inclut aussi les sites de Guyane, permettant notamment la lumière sur des vestiges qui témoignent de l'esclavage, du bagne ou encore de l'orpaillage. Et puis pour finir, une étude surprenante parue dans la revue Current Biology qui a permis de révéler la manière dont s'accouplent des chauves-souris. On parle ici des sérotines, l'une des 1400 espèces de chauves-souris qui ont toujours été source d'étonnement et d'émerveillement pour les chercheurs. Et là, c'est particulièrement le cas. En étudiant cette espèce, des scientifiques se sont aperçus d'une disproportion entre la taille du pénis du mâle et celle de la vulve de la femelle. Un décalage qui pose un problème, mais pas pour les chauves-souris apparemment, puisqu'elles parviennent tout de même à procréer. En fait, il s'agit d'une reproduction par simple contact prolongé des organes génitaux et donc sans pénétration, un phénomène qui est en fait courant chez les oiseaux et que l'on connaît sous le nom de baiser cloacal, mais c'est la première fois qu'il est observé chez des mammifères, et ce qui démontre pour beaucoup de scientifiques que nous n'avons qu'une vision très parcellaire de la biologie des chauves-souris.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Notre planète se réchauffe de plus en plus, le constat est implacable, un phénomène qui touche en particulier les villes où la chaleur s'accumule, un réchauffement qui est bien sûr perceptible à Caen où la température a presque augmenté d'un degré entre les années 70 et les années 2000. Les hivers sont plus doux avec environ 10 jours de froid en moins tandis que les étés sont plus chauds. Les périodes de canicule et de sécheresse se multipliant, les étés deviennent de moins en moins supportables. Il faut donc trouver des solutions innovantes pour y remédier. Et pour parler de ce qu'on appelle les îlots de chaleur au sein des villes et de la manière dont ils se manifestent et les solutions que l'on peut apporter, nous recevons aujourd'hui dans C'est pas faux Mathieu David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en préparation de thèse au sein du laboratoire ID de l'Université de Caen, qui est affilié au CNRS, une thèse qui va porter sur l'Europe à l'aune des changements climatiques du 21e siècle, du maintien d'un îlot de chaleur estival en période caniculaire à l'émergence d'un refuge climatique en Cotentin, une thèse sous la direction d'Olivier Cantat que nous avions reçu il y a 2 ans à l'occasion d'une émission sur les impacts du changement climatique. On va se focaliser ce midi sur le réchauffement qui touche les villes françaises, en particulier Caen, qui n'est bien sûr pas épargné. D'abord, une petite mise au point s'impose avant d'attaquer dans le vif du sujet. On a longtemps parlé de réchauffement climatique. Est-ce que c'est un terme impropre ? Il faut bien rappeler que le réchauffement n'est qu'une partie, qu'un élément du changement climatique, c'est bien ça ?
C'est ça. On parle de réchauffement climatique au niveau mondial, puisqu'on a des hausses de température, mais ça se décline ensuite à l'échelle locale, donc à Caen ou dans les autres villes, mais sur l'ensemble du territoire, par des changements dans les différents paramètres qui constituent donc notre climat. Donc vous l'avez dit, on peut parler du gel, du nombre de jours de gel qui diminue, des changements dans les précipitations, du nombre de jours de forte chaleur qui augmente, mais c'est vrai qu'on peut avoir des... une mosaïque climatique qui va être finalement changée. Donc les deux termes sont propres en fait.
Alors est-ce que ce réchauffement il touche davantage les villes que les zones rurales et pourquoi ?
Alors il touche pas spécifiquement plus les zones les villes. Mais en ville, on a un climat particulier, le climat urbain, qui fait qu'on va avoir des phénomènes qui peuvent être amplifiés et donc qui peuvent poser encore plus de problèmes pour la population. On a là le croisement, en fait, surtout dans les villes, d'un aléa, le changement climatique, avec les différentes manifestations qu'on peut voir, et des enjeux, en l'occurrence, des populations exposées en plus grand nombre.
Et à partir de quand est-ce qu'on s'est aperçu de la présence de ces îlots de chaleur au sein des villes ?
C'est pas quelque chose d'extrêmement récent en fait. Dès le 19e siècle, on a déjà des études, alors des sensations on va dire, plus que des études chiffrées, avec le cas de Londres par exemple, dès 1820. Le développement des réseaux tels qu'on peut le connaître aujourd'hui pour étudier en profondeur le climat urbain est un petit peu plus récent. Même si on va dire que ça s'est développé à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Est-ce que la datation de ce réchauffement des villes, elle est concomitante aux premières évaluations du changement climatique, je veux dire de manière scientifique et chiffrée ?
Alors non, parce que c'est deux phénomènes différents. D'un côté, on a le changement climatique global, avec une hausse de la température due à une concentration des gaz à effet de serre qui est en augmentation dans l'atmosphère. Et de l'autre, on a un phénomène qui est... qu'on pourrait dire géographique, qui est dû à la présence d'une ville. Donc en fait, c'est deux phénomènes qui sont qui n'ont rien à voir, mais ils interagissent l'un avec l'autre en fait.
C'est presque deux disciplines différentes en fait, même si évidemment il y a une interaction comme vous l'avez dit, mais c'est deux approches presque différentes.
Oui, c'est ça. C'est quand on s'intéresse au climat urbain, on va plutôt être sur de la climatologie d'échelle fine. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le topoclimat, donc le climat d'un lieu. Là où quand on parle de changement climatique à l'échelle du globe, on va plutôt s'intéresser à d'autres composantes, la concentration des gaz à effet de serre, par exemple. Et donc là, on va plutôt avoir d'autres disciplines qui vont être comme la physique de l'atmosphère, par exemple, qui vont être surtout moteurs dans ces études-là.
Qui est très important pour évaluer de manière voilà, précise et puis pour compléter aussi, je suppose, votre travail de géographe. Pourquoi est-ce qu'il y a des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur dans certains endroits ? Quels sont les facteurs qui déterminent ces variables de température ?
Alors, en ville, ce qui va être réellement la cause de cette chaleur qui va s'accumuler, c'est déjà une absence d'évaporation et d'évapotranspiration. Donc, on a moins d'eau en ville. Elle est moins présente souvent à la surface. Les cours d'eau à Caen, par exemple, il y en a un certain nombre qui ont été enterrés. On a également donc moins d'évapotranspiration. Là, c'est la transpiration des plantes. Donc, tout simplement parce qu'il n'y a pas autant de végétation en ville qu'à la campagne. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important. L'autre chose, c'est que l'albédo aussi en ville est différent, c'est-à-dire c'est la capacité des matériaux à réfléchir la lumière solaire directement.
Qu'est-ce qu'on a par exemple comme matériaux qui ont cette capacité-là ?
Typiquement, des surfaces blanches vont avoir un albédo élevé. Au contraire, le goudron noir qui compose énormément de nos zones urbaines va avoir un albédo plutôt faible.
Et donc, on se souvient d'ailleurs des autoroutes américaines, je crois, qui avaient été repeintes en blanc pour endiguer ces trop pleins de chaleur.
Tout à fait. Et ça, du coup, c'était déjà quelque chose qui était connu historiquement, puisqu'on peut le remarquer en Grèce, où il y a des habitations qui sont déjà dans ces couleurs plus claires. Donc ça c'est deux des choses. On a donc aussi une meilleure réception du rayonnement solaire. Le soleil reste un moteur du climat à l'échelle de la ville, puisqu'on va avoir des surfaces verticales qui vont intercepter un peu plus facilement le rayonnement solaire. Bien évidemment, ça va créer le pendant. On va aussi avoir des secteurs un peu plus à l'ombre. Ces surfaces vont capter et stocker plus facilement la chaleur que d'autres zones, donc notamment les zones rurales. Suite à ça, on a également une rugosité plus importante de l'espace urbain. Donc c'est tout simplement le bâti qui va empêcher le vent de s'infiltrer correctement et donc de disperser éventuellement ces îlots de chaleur qui se sont créés. Donc on va avoir ces petits
dans des espaces peut-être plus étroits, plus confinés.
Tout à fait. Alors je sais pas si donc certains de vos auditeurs habitent typiquement dans les îlots du centre-ville, mais on le sent bien quand on est au sein de ces îlots-là ou quand on va dans des rues qui sont plus étroites. Et ça va aller jusqu'à créer des effets qu'on appelle de canyon urbain, c'est-à-dire qu'on va avoir des surfaces verticales qui vont réceptionner ce rayonnement solaire et qui, une fois la nuit venue, en fait, le rayonnement, ce qui va être un rayonnement infrarouge, va venir ricocher d'une certaine manière sur les parois et donc garder cette chaleur la nuit aussi.
Alors justement, à Caen, est-ce qu'on peut situer, est-ce que vous pouvez nous dire où sont situés les îlots de chaleur en particulier ? Vous avez parlé du centre-ville, est-ce que, là encore, il y a peut-être des nuances aussi à apporter, est-ce que tout le centre-ville est concerné dans sa totalité ou il y a vraiment des points et des secteurs qui sont vraiment touchés de manière durable ?
Alors, pour l'instant, on a instrumenté le cœur du centre-ville de Caen, c'est-à-dire la partie basse de la vallée, la zone de reconstruction, donc ce qui se situe au-dessous du château, entre la prairie, et on commence à étendre le réseau. Donc moi, je parlais pour l'instant que de ce qu'on sait dans cet espace-là. Mais effectivement, ne serait-ce que dans cet espace-là, qui fait quelques centaines de mètres par de large et de long, on a quand même des différences qui peuvent être notables. Le cœur chaud de la ville va plutôt se situer autour de l'église Saint-Pierre, donc Tour-le-Roi, Place Bouchard, dans ce secteur-là, le début de la rue Saint-Jean et de l'avenue du 6 juin. Au contraire, des zones qui sont à proximité de la prairie, par exemple, on va avoir des températures qui vont être un peu plus fraîches.
Alors cette température, cette différence de température, elle est de quel ordre à peu près, si on peut chiffrer ces variations ?
Ouais, on peut la chiffrer. Alors ça dépend en fait. L'îlot de chaleur urbain, il va se manifester lorsque le type de temps est favorable. Donc c'est une composition de plusieurs paramètres qui vont faire en sorte que la chaleur va pouvoir se créer et s'accumuler. Donc il faut donc beaucoup de rayonnement, donc un ciel dégagé, et il faut également peu de vent, hein, donc un type de temps plutôt clair et calme.
Ça va pas forcément être uniquement les canicules, du coup, va être vraiment beaucoup plus large que ça.
Tout à fait, et en fait, c'est un îlot de chaleur, on peut également l'observer en hiver. Ça a posé moins de problèmes d'un point de vue sanitaire, mais on a un îlot de chaleur qui, lors de son extension en termes de température maximale, va être de l'ordre de 5 à 7 degrés à Caen, ce qui est quand même pas négligeable. Et on a finalement un bruit de fond, un signal de fond qui va être de l'ordre de 1 degré lorsque les conditions vont être plutôt défavorables à sa mise en place.
Donc au final, quand on regarde la météo en temps réel à Caen, c'est un point, mais les variations sont multiples finalement.
C'est ça. Donc à Caen, on a la chance d'avoir la station de l'aéroport de Caen-Carpiquet qui nous sert de référence. Bien évidemment, elle répond à des normes de l'Organisation météorologique mondiale avec une surface plane enherbée et dégagée. Mais elle ne représente pas l'espace dans lequel on vit chaque jour, donc ce n'est pas le climat que chaque canet peut vivre. Et au sein même de l'agglomération, chaque canet pourra vivre même un climat différent.
Est-ce qu'il y a un seuil limite où ces températures deviennent problématiques et justement peut-être où on qualifie ces températures d'îlots de chaleur ?
Alors on n'a pas spécialement de seuil limite, mais on peut reprendre d'autres seuils qui sont... problématique pour notre santé à nous en tant qu'être humain. C'est pas tant les températures extrêmes qui vont poser problème, bien que si elles se succèdent dans le temps, là on peut avoir une accumulation de fatigue notamment, et donc conduire à une hausse de la mortalité, de la morbidité. Mais ce qui va être surtout important, ça va être la température nocturne en fait. Il faut qu'elle passe en fait sous un certain seuil, donc ça dépend de notre habitus climatique, hein, si on est plus ou moins habitué à la chaleur, mais on va considérer en dessous de 23-25 degrés la température sous laquelle il faut qu'on passe pour pouvoir récupérer. Et le problème, c'est que les îlots de chaleur urbains, ils s'expriment très fortement la nuit en fait.
Vous parlez des canyons climatiques, justement aussi des petites ruelles étroites qui concentrent toute cette chaleur.
C'est ça, voilà. Alors, et du coup, justement, on se rapproche du coup de l'espace vécu, et quand on peut avoir des difficultés à se reposer parce que la température justement ne chute pas durant la nuit, c'est là où ça va être problématique.
Et quelles sont les villes touchées en France ? Est-ce que c'est une question de villes du Nord et de villes du Sud, ou pas forcément au final ?
Pas forcément, ça va dépendre plutôt de l'architecture de la ville, de son urbanisme. Le réseau de Caen, il a été créé justement pour savoir si une ville qui se situe plutôt dans la partie Nord de la France, qui est assez proche de la mer, on est à une quinzaine de kilomètres de la mer, connaissait aussi ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc à partir du moment où on était quand même dans un contexte plutôt défavorable, a priori. Finalement, une ville comme Caen le connaît quand même, donc a priori, ça concerne l'ensemble des villes, et donc les solutions passent entre autres par l'urbanisme.
Et en période de canicule, on l'a dit, on trouve ces îlots de chaleur donc plutôt autant le jour que la nuit, en fin de compte, c'est ça ?
Alors non, justement, non. Les écarts en journée ne sont pas si importants que ça, on va être de l'ordre de 1 degré, tout simplement parce que le rayonnement, en fait, il baigne aussi bien la campagne que la ville de manière indifférenciée, mais c'est bien le stockage de chaleur qui va être problématique en ville, et ce qui va expliquer pourquoi est-ce que, notamment en deuxième partie de nuit, on va avoir des écarts qui vont se creuser et qui vont atteindre 6-7 degrés.
Et est-ce que ça pose la question de la viabilité d'une ville à long terme ? Est-ce que c'est tout un mode de vie urbain, j'allais dire, qui est remis en cause par ces îlots de chaleur qui ont tendance à se multiplier ?
Ouais, je pense que si y en a certains d'entre vous qui ont déjà connu la ville en période de canicule, ils comprennent bien que ça peut être difficilement supportable sur la durée. Quand on prend les chiffres d'évolution typiquement du nombre de nuits tropicales, donc c'est lorsque la température ne descend pas sous les 20 degrés, à l'heure actuelle, enfin pour la période de référence, donc 1976-2005, qui nous sert de base pour nos études climatiques, c'est un événement qui était relativement rare en Normandie. Et à la fin du siècle, dans un scénario qui est plutôt pessimiste, un RCP 8.5, on aura entre une dizaine et une vingtaine de jours en moyenne par an de ces nuits tropicales. À savoir que dans le sud, c'est ce qu'ils connaissaient à peu près une trentaine de jours, c'est ce qu'ils connaissaient hein, pour leur période de référence. Ils vont atteindre dans les 90 nuits hein, en moyenne par an. Donc il faut imaginer 3 mois hein, sans que la température baisse sous les 20 degrés. Donc là, ça va forcément modifier considérablement notre vécu climatique. Et si nos villes ne s'adaptent pas, bien évidemment, puisqu'elles ne sont pas aujourd'hui adaptées à cette forme de climat, ça va avoir des impacts sur notre qualité de vie.
Donc, dans un scénario où les villes ne s'adapteraient pas du tout, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, il y a beaucoup d'actions qui sont faites en faveur de ce changement-là, mais dans un scénario où rien ne changerait, on pourrait imaginer qu'à la fin du siècle, une ville comme Caen adopte un climat qui serait proche de villes du Sud actuellement ?
Plus au Sud, oui. Oui,
ouais, c'est ça. comment est-ce qu'on mesure un îlot de chaleur concrètement? Est-ce qu'on arrive à tout observer et à ne rien laisser passer, j'ai envie de dire? Quel outil, quel matériel il faut?
C'est toujours un peu la frustration qu'on peut avoir en tant que climatologue, c'est-à-dire qu'on veut avoir la plus grande exhaustivité spatiale et dans le même temps la plus grande exhaustivité temporelle pour pouvoir suivre justement ces évolutions de température et ces cycles qui sont du coup annuels et aussi journaliers. Donc on a à notre disposition plusieurs outils. Ce qu'on utilise beaucoup, nous, ça va être donc des sondes de température sous abri, donc fixes, comme on peut avoir un réseau à Caen, et on peut associer à ça pour parfois explorer certaines zones ou avoir une diversité spatiale lorsqu'on a des phénomènes particuliers qui se manifestent, finalement des sondes temporaires qu'on va amener sur place. Alors ce qu'on a fait, ce qu'on appelle les transects urbains, mais finalement pouvoir avoir une coupe, si on veut, de la température en ville.
En termes de solutions, est-ce qu'on peut établir des solutions qui sont généralisées et applicables à plus ou moins toutes les villes françaises, ou est-ce que le cas par cas est nécessaire? Par exemple, est-ce qu'une solution à Lyon, est-ce qu'elle peut fonctionner à Caen?
À ce sujet, donc le CEREMA et l'ADEME ont créé un guide qui recense justement l'ensemble
qui sont des
organismes d'État. Voilà. J'ai pas le nom des acronymes, mais je suis sous la main, désolé. Mais qui ont recensé en fait l'ensemble de ces solutions là. Ils les ont classées en 3 catégories. Alors bien évidemment, ensuite il faut voir ce qui peut être applicable localement, si ça fait du sens. On a 3 grands types de solutions, des solutions qu'on appelle vertes, qui vont être fondées sur la nature, réintroduire les arbres en ville, typiquement, pour créer cette ombre, apporter cette évapotranspiration. Alors, c'est pas toujours facile et évident à faire, puisqu'il y a tout un tas de réseaux et de modes d'occupation du sol qui sont déjà en place, donc on a un héritage historique dans la ville avec lequel on doit composer. On a des solutions grises qui vont plutôt être des solutions techniques. Alors travailler sur l'albédo, le fait de peindre les routes, les autoroutes aux États-Unis en blanc, ça fait partie de ces solutions grises. On peut aussi mettre en place des brumisateurs. C'est le cas à Caen, par exemple, au Jardin des Plantes. Il y a des brumisateurs qui sont mis en place lors des pics de canicule. Et après, du mobilier urbain de temps en temps pour créer des petits espaces frais. Et la troisième solution, c'est ce qu'on appelle les solutions douces. Là, c'est vraiment dans les comportements en fait de nous tous en tant que citoyens, c'est-à-dire réduire le trafic automobile, parce que j'ai oublié de le préciser, mais il y a également la production de chaleur anthropique qui rentre en compte dans la formation de ces issues. Alors elle peut être marginale, mais elle existe tout de même. Et la baisse, par exemple, du trafic automobile, elle a d'autres avantages. On va avoir une baisse de la pollution qui va être associée, donc un temps qui va être un peu plus, même s'il est chaud, il va être un petit peu plus supportable, et une baisse du bruit, tout simplement parce qu'encore une fois, si jamais on a moins de repos lors de ces périodes caniculaires, ça peut poser problème. Et ensuite, un peu la même chose dans le terme des comportements, modification des calendriers, modification des horaires, la mise à disposition aussi d'espaces publics frais. Typiquement, la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen avait un espace frais lors de la canicule de septembre dernier, qui était ouvert, et donc c'est des espaces qui sont plutôt intéressants puisqu'ils ne sont pas associés à un besoin marchand en fait, mais vraiment juste à l'accessibilité à un espace frais.
Donc finalement, la solution de reboiser, elle est très efficace, évidemment, mais c'est plutôt la combinaison de plusieurs solutions qui permettrait le plus possible de lutter contre ce réchauffement.
Oui, et là, encore une fois, nous, on mesure le climat à l'extérieur de la ville, enfin, à l'extérieur des bâtiments dans la ville, mais on essaie de se rapprocher au plus près du climat vécu, mais la qualité des logements, leur isolation, rentre également en compte dans le fait de supporter ou non la chaleur en zone urbaine.
Alors j'imagine qu'il y a aussi des difficultés dans le... Si on peut y revenir juste à la solution de boiser les zones urbaines. À Caen, par exemple, on a affaire à des centres-villes qui sont parfois très denses, où il est pratiquement impossible de planter des arbres. Je pense notamment à la rue Froide, par exemple, ou à la rue Arcis de Caumont. Voilà. Est-ce qu'il existe pour ces ruelles précisément des solutions alternatives, ou c'est plutôt des solutions qui vont se trouver aux abords de ces ruelles qui vont faire le travail?
Alors les deux. Alors en l'occurrence, pour la rue Froide, on se pose encore la question de savoir, parce que c'est pas une rue qui est instrumentée, parce qu'on a besoin de choses particulières pour pouvoir instrumenter les zones, mais c'est une zone qui va être, j'espère, suivie incessamment sous peu. La rue Froide, en fait, c'est une rue tellement étroite que le soleil peut aussi avoir du mal à pénétrer, en fait. Et donc finalement, est-ce qu'elle porte bien son nom ou pas? Et finalement, le canyon urbain, je parlais de rue étroite, mais finalement, quand on passe une certaine étroitesse, le soleil pénètre tellement pas
Donc ça se joue à pas grand chose au final.
Ça peut jouer à pas grand chose. Bah, typiquement, encore une fois, si on prend l'exemple de villes plus anciennes dans le sud de la France, typiquement, l'étroitesse des rues faisait partie donc du panel d'outils pour lutter contre cette chaleur. Donc ça peut être ça, mais typiquement dans des rues comme aussi étroites, on peut imaginer de tendre des draps ou des choses comme ça au-dessus des toits pour pouvoir finalement créer cette ombre supplémentaire.
On continue de parler du réchauffement des villes et des solutions pour y remédier dans C'est pas faux, juste après The Tower de Future Islands. À tout de suite sur Radio Phoenix. C'était The Tower de Future Islands. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux sur Radio Phoenix et on continue de parler du réchauffement des villes avec Mathieu David qui est en préparation de thèse au sein du laboratoire ID. Quelles sont les conséquences de telle chaleur en ville chez les habitants?
Bon, on va tout d'abord avoir un inconfort qui va augmenter, ça c'est à noter. Et ensuite, ça va être une hausse de la mortalité en fait hein, dans les zones urbaines. On le voit particulièrement dans les zones comme l'Île-de-France, alors peut-être un peu moins à l'échelle de la Normandie, mais ça reste quand même la conséquence majeure de ces îlots de fraîcheur lorsqu'ils s'établissent lors des périodes de canicule.
Et c'est un phénomène qui touche certaines populations en particulier, ou est-ce que finalement il épargne personne ?
Alors, a priori, il épargne personne, puisque c'est un aléa qui va toucher l'ensemble de la ville, mais même au sein de la ville, comme on l'avait dit précédemment, il y a des petites différences. Donc, certains espaces vont être un petit peu plus frais, d'autres vont être un peu plus chauds, et ensuite, on va également prendre en compte la qualité des habitations. Mais si on prend, par exemple, les espaces frais, ça va être généralement des espaces qui sont plutôt valorisé d'un point de vue du coût immobilier. Donc quand on donne sur une rivière ou quand on donne sur un parc urbain, généralement les loyers et ou les prix d'habitation sont plus élevés. Donc là, on a une première inégalité en fait.
C'est ça, et donc ces vagues de réchauffement, elles peuvent donc aggraver ces inégalités sociales, par exemple entre des quartiers qui vont être privilégiés, donc plus boisés potentiellement, avec plus d'espace de vie, donc plus de marge de manœuvre, et d'autres quartiers qui seront plus bétonnés, et voilà, les gens seront plus à l'étroit, donc il y a aussi là une...
C'est ça, il y a différentes études qui ont été menées, là il y a une très belle thèse par Malou Anania qui a justement fait part de ces inégalités au sein des espaces urbains face aux chaleurs, et finalement le découpage qu'elle a effectué, c'est des différences déjà entre les différents corps, qu'on soit femme ou homme, on ne va pas forcément réagir de la même manière. Alors pas spécialement parce qu'on va avoir une réaction thermique différente, mais parce qu'on ne va pas forcément pouvoir se dénuder de la même manière. On va avoir des différences sur le logement. Est-ce qu'on a un logement qui va être surpeuplé? Est-ce qu'il va être bien isolé ou pas? Au dehors, est-ce qu'on peut y aller ou pas dehors? Est-ce qu'on s'y sent en sécurité? Est-ce qu'on peut y aller à toutes les heures? Puisque là, où le moment où l'ICU va se manifester le plus, c'est donc durant la nuit. Est-ce qu'on se sent en sécurité à l'extérieur? Et puis enfin, une inégalité, c'est est-ce qu'on peut aller ailleurs? Est-ce qu'on a des espaces frais à proximité? Ou est-ce qu'ils sont plus lointains? Et est-ce qu'on a les moyens physiques, financiers? Est-ce qu'on a le temps, tout simplement, de pouvoir se rendre dans ces espaces-là?
Est-ce qu'il y a une mission de sensibilisation à ces enjeux qui est importante pour vous, notamment au sein de votre laboratoire? Je sais que vous nous avez parlé en off de la fête de la science. Il y a peut-être un travail de pédagogie aussi et d'information tout simplement vis-à-vis de ces sujets.
C'est ça, donc... Ce genre d'émission, typiquement, fait partie des missions du chercheur, donc de sensibilisation, mais la fête de la science a été aussi l'occasion de parler de cette question des îlots de chaleur urbains. C'est un réseau qui est assez récent à Caen, donc qui a un an et demi, donc le temps de récolter les données, d'avoir suffisamment de situations intéressantes et pertinentes, bon, ça demande un petit peu de temps. Mais voilà, aujourd'hui commence le temps de la sensibilisation, et demain, on espère pouvoir mettre à disposition justement ces données qu'on récolte, à toute la population pour qu'on puisse avoir la météo vécue en fait au jour le jour.
Alors cette sensibilisation, elle porte ses fruits puisque, par exemple, les gagnants de la première édition de HackaSense qui était organisée par Pépite Normandie il y a une semaine sont une équipe qui a porté un projet de création d'une application qui détecte ces îlots de chaleur au sein des villes et qui donc permet de d'emprunter des itinéraires, qui permet de les éviter. Donc c'est une question concrète de laquelle s'emparent les jeunes aujourd'hui, vous...
Oui, c'est ça. C'est deux de nos étudiants de master environnement, donc deux géographes, dont l'un d'eux qui a fait un mémoire de recherche sur le climat urbain. Et donc oui, on est très contents pour eux, donc qu'ils puissent développer cette idée-là.
Alors même si les villes souffrent d'une montée des températures l'été, et en particulier lors des périodes de canicule, mais pas que, vous nous l'avez expliqué, plusieurs régions de France sont quand même à l'abri de la fournaise, si je peux dire, qui peut toucher d'autres territoires. Et ces régions, elles peuvent constituer des refuges climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer ce concept?
Oui, alors du coup, les étudiants de master, ils travaillaient donc sur les questions de fraîcheur au sein des villes, d'avoir des parcours, et donc là, qui permettraient d'éviter un petit peu les surchauffes. Donc finalement, des abris, un peu à l'image des abribus, mais là, de l'abri de la chaleur. Les refuges, là, on va avoir des zones géographiques qui vont vraiment être résistantes en fait, à cette montée de la température. Et ça va être notamment le cas du Cotentin, par exemple, hein, ou des espaces littoraux de manière générale. On va avoir finalement un nombre de nuits tropicales, par exemple, qui va rester assez limité. On va être en dessous des 10 jours par an, par exemple. Et donc, ces espaces-là pourront être mobilisés justement pour les personnes qui ont cette capacité à aller vers l'ailleurs. Mais ça s'adresse pour l'instant qu'à une certaine partie de la population, bien évidemment.
Et ces territoires qui sont, on va dire, un peu protégés de cette montée des températures, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils sont plus exposés au littoral, au courant marin, par exemple?
Oui, il y a de ça. Dans le cadre du Cotentin, c'est ça qui a été mis en évidence. Hein. C'est que les situations qui vont donner des jours de chaleur à Caen, ça va être essentiellement ce qu'on appelle des circulations de sud, c'est-à-dire de l'air chaud qui va remonter hein, du sud de la France et par là, donc du Maghreb et d'Afrique. Le Cotentin va être protégé parce que il va être entouré d'eau, en l'occurrence. Hein. Ça va être le cas du Cotentin. Et ce qui fait que cet air chaud va passer au-dessus d'une surface et qui va pouvoir venir tempérer ces excès de température. Donc c'est pour ça qu'on a... Et comme il est protégé à la fois au sud et à l'est, en fait, la plupart des situations où on a des fortes chaleurs, ça va, on a ce petit tampon, cette petite protection qui va venir le protéger.
Donc la Normandie et le Cotentin particulièrement, ils peuvent être déjà considérés comme des refuges climatiques à l'heure actuelle ?
Oui, très probablement. Les études que j'ai menées donc, montrent qu'on a bien cette quête de fraîcheur qui se met en place, une quête de fraîcheur lors des épisodes de canicule. Alors ça concerne une quinzaine ou une vingtaine de pourcents des touristes en l'occurrence, hein. On voit que ça augmente lors des périodes de canicule et y a une communication aussi autour de ces territoires, autour de cette question de la fraîcheur.
Alors ces refuges climatiques, ils sont dus à la force de la nature, si je peux dire, aux conditions naturelles, en fin de compte, qui favorisent telle ou telle condition climatique. Est-ce qu'ils peuvent aussi être créés et aménagés par l'homme ? Je pense par exemple aux villes vertes. Ou aux quartiers qui sont peut-être plus reboisés, voilà, qui sont vraiment dans cette démarche écologique et environnementale. Est-ce que ces quartiers-là peuvent être considérés comme des refuges climatiques ou c'est vraiment propre à des territoires naturels ?
Je pense que c'est plutôt propre à des espaces qu'on va considérer comme naturels. Quand on est dans le cas d'un réaménagement d'une ville ou de la construction d'un quartier où on va avoir plus d'espaces verts, on va plutôt être sur un phénomène d'abri, c'est-à-dire qu'on va pas être complètement sorti de cet aléa initial, en fait. On va pas avoir un aggravement de cet aléa initial, mais on va pas en être sorti. Là où, dans le Cotentin et dans d'autres espaces similaires, on va vraiment ne pas du tout avoir la présence de cet aléa ou dans une présence qui va être beaucoup moins marquée.
Et ce phénomène de refuge climatique, est-ce qu'il est durable ? Je veux dire, est-ce qu'il est plutôt toute l'année ou est-ce qu'il est saisonnier plutôt ?
À l'heure actuelle, il est saisonnier plutôt. On va avoir des déplacements qui vont être associés au tourisme et qui vont du coup être plus ou moins bien vus, bien évidemment, par les populations locales. Mais ça entraîne à la marge qu'une installation pérenne. Cela étant, dans les années à venir, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que ça va évoluer, qu'est-ce que ça veut dire pour les territoires concernés et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les populations locales. Au-delà de ça, c'est une forme de solidarité à l'échelle probablement régionale, voire nationale, qui doit se mettre en place, puisque si on compare finalement ces périodes de canicule avec des périodes où on a des feux de forêt ou des inondations, généralement on a une forme de solidarité à l'échelle locale qui se met en place, c'est-à-dire qu'on ouvre des salles des fêtes, on peut déplacer un peu de population, et c'est quelque chose qui est tout à fait présent et accepté par la société, et c'est très bien comme ça. Mais dans le cadre des canicules, on passe encore par ce système marchand, tout le monde ne peut pas fuir, alors pourquoi est-ce que... C'est comme ça, il y a plusieurs hypothèses, probablement parce que c'est pas un aléa qui se voit. C'est difficile à représenter, une image d'une canicule, on peut pas forcément se la représenter mentalement, et encore moins dans les médias.
Et puis dans nos régions, on est peut-être aussi moins habitué à cette mentalité-là de protection vis-à-vis des canicules.
Tout à fait, oui, parce que pour qu'on puisse finalement mettre en place cette solidarité, il faut aussi partager un petit peu le fardeau de l'aléa, et c'est vrai que la canicule n'est pas forcément un fardeau facile à partager.
Ben merci beaucoup Mathieu David d'avoir été avec nous à notre micro pour parler du réchauffement urbain, des problématiques que ce phénomène pose et voilà de ce qui est fait pour lutter ou pour tenter de lutter contre ce fléau. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Encore merci à Mathieu David d'avoir été à notre micro ce midi. C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais juste avant de se quitter, voici votre agenda de la semaine. Ce jeudi, le Dôme propose de jouer à détecter des informations trompeuses sur un réseau social imaginaire, Ocytocine, qui se présente sous la forme d'une application à télécharger. Le but, éveiller l'esprit critique, des plus jeunes notamment, mais pas que. Et cela autour de 4 scénarios possibles, Squid Game, le Covid-19, la démocratie ou encore le climat. Pour vaincre ces fake news, il faudra redoubler de vigilance et pour déceler les biais cognitifs et comprendre les stratégies de ses adversaires. Une séance animée par le laboratoire de psychologie et qui sera suivie par une projection du film Reality dans le cadre des rencontres ciné-sciences. Rendez-vous donc ce jeudi à partir de 19h au Café des Images. Et puis pour finir notre recommandation documentaire avec cette semaine, une enquête éclairante que propose Arte sur le lobby du pétrole. Il aborde d'abord la question des enjeux climatiques auxquels sont confrontées ces énergies fossiles avant de se pencher sur la désinformation qui colle à la peau de ce sujet. Pétrole, un lobby tout puissant, c'est disponible sur YouTube depuis quelques jours sur la chaîne d'Arte. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Emmanuel, à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Bonne journée sur Radio Phoenix.